C'est la raison pour laquelle...
Charles de Gaulle, en 1960.
C'est l'autre raison pour laquelle la France, avec ses moyens et sans outrecuidance, a cru devoir entrer dans la voie qui lui procurera l'abondement, il faut bien le dire, nécessaire pour être elle-même.
Préparer cette explosion au Sahara.
Jules Moch, délégué français à l'ONU en 1958.
Plutôt que dans une île lointaine du Pacifique, il serait mieux que le Nevada et le Kazakhstan. Je vous l'ai montré. Les habitants de Los Angeles ou de San Francisco, d'Oxford ou de Novosibirsk étaient plus exposés, sans pourtant rien risquer, que ne le seront ceux d'aucune ville marocaine.
Si l'on vous demandait où se trouve Reagan, vous répondriez au cœur du Sahara. C'est une image qui ne veut rien dire. Si on n'y est pas seul, une ville située au centre d'un désert de 1000 km de rayon, c'est inimaginable. Pourtant, elle existe. Elle a compté au moment de l'explosion près de 10 000 habitants dispersés sur trois centres. Reagan Ville, Reagan Plateau, Amoudi.
J'ai participé à la première bombe atomique en 60. J'étais appelé, un simple soldat, et j'avais 20 ans. On a passé 6 mois, on était à Colombichard. On faisait des opérations. Et puis au bout de 6 mois, ils ont dit, bon, le régiment est dissous, vous allez partir dans le sud. Et on a chargé les camions, on est parti dans le sud, et dans le sud, on est arrivé à Plateau de Reagan. Quand on est arrivé à Reagan, on a commencé à nous faire essayer des mascarades. On nous a dit que c'est pour les essais atomiques, mais on ne nous a pas dit que c'était dangereux, rien. Alors les premiers mois, on a mis des balises dans le Sahara, à peu près 100 km à la ronde, tout autour. Ces balises, elles étaient numérotées. C'était pour le jour de l'explosion, pour relever la radioactivité. Là, on savait qu'il y avait qui allait avoir une explosion. On voyait sur la tour, mettre la bombe et tout ça, et... Pour nous, on était fiers. On était fiers de passer à la première bombe atomique.
Veuve d'un militaire décédé après avoir été exposé aux essais atomiques. Il est d'abord parti le 23 avril 63 pour un séjour de 15 mois. J'étais enceinte de mon 4e enfant. Et mon mari part donc le 23 avril 63 et muté à Reagan.
Une douzaine de familles avec des enfants aussi.
Il y a donc
en permanence ici à Reaganville. Et alors au plateau, il y a des secrétaires, des techniciennes.
L'épouse du colonel de la base de Reagan en 1960.
Et vos enfants, donc, pour vous, il n'y a pas de
danger. Il n'y a pas du tout de danger. Et mon mari, justement, avait tenu à ce que nous soyons là au moment de l'explosion pour bien prouver qu'il n'y avait aucun danger.
Aucune
appréhension.
Thank you.
J'ai été victime à cause d'Alstom, notamment l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé au Sahara. Je ne tenais pas tellement à partir, parce que j'ai laissé ma femme et mes enfants ici. Donc je suis parti, on est parti en avion, on s'est arrêté à Alger, et puis d'Alger bon, jusqu'à Ninguém. On m'a de suite mis dans un Algeco, on était deux par Algeco, j'ai retrouvé un copain qui travaillait avec moi à la CG2Z Alstom. Et puis le soir, il n'y avait pas grand chose à faire, il n'y avait qu'un bar. Voilà, et c'est là où j'ai appris ce qu'était le 7-14-21. Il y a 7 on commande, 14 on boit, et celui qui a 21, il paye. Je me suis trouvé pendant tous ces jours avec des gars livrés à eux-mêmes, dont le seul loisir c'était le jeu et la boisson. Voilà, et j'ai vu aussi pas mal de rapatriés sanitaires à cause de cet alcoolisme.
L'explosion nucléaire expérimentale a eu lieu ce matin, avec succès, sur le polygone de Reagan.
Pierre Messmer, ministre des Armées, en 1960.
Comme pour les expériences précédentes, du 13 février et du 1er avril, toutes les précautions ont été prises pour que ni les populations proches, ni les populations éloignées du lieu de l'explosion ne soient exposées à aucun danger.
On nous a fait mettre le dos à la bombe, hein. On était reconfiés, la main devant les yeux, parce qu'il y avait une paire de lunettes pour 40 bonhommes. On avait une tenue blanche, c'était du tissu normal, des masques à gaz qui dataient de la guerre de 39-40. Il y en avait certains, il y avait les cartouches qui ne tenaient pas, il y en avait qui s'étouffaient, et la main devant les yeux. On a vu le champignon et puis ça fait boum pendant deux fois. Et on a vu ce champignon de plusieurs couleurs. Les portes des embarquements qu'il y avait, c'était tout ouvert et ça avait tout claqué. Quoi. Le sable était monté à peu près à une soixantaine de centimètres. Il y en a qui ont applaudi. Regardez, ils ont mis le champagne. Dit bon, maintenant vous allez faire les prélèvements dans le Sahara. Moi je me rappelle qu'au point zéro, ils avaient mis des camions, le génie avait mis des pommes, l'aviation des avions, et tout du matériel militaire. Alors, il y avait certaines choses qu'ils voulaient, mais c'était du matériel, il l'a fait. Avec trois véhicules et le chef de cette ferme, il avait le compteur de gel et à chaque chose, il relevait la radioactivité et il envoyait un message au PC. Mais c'est toujours pareil. Nous, on ne savait pas réellement quel taux il y avait de radioactivité, on ne savait pas.
Ce travail a été fait très très sérieusement.
Pierre Messmer, en 2004.
Et il n'y a eu aucune précipitation.
Après ça, deux trois jours après, quand je suis rentré à la base, comme j'étais chauffeur, il m'a dit, vous allez chercher un officier à tel endroit, il vous dira, et vous savez qui veut aller. On a mis des tenues blanches et tout ça, et ce gars-là, il m'a fait aller au point zéro. tribunal au Poitou, parce que ce gars-là, il avait été en Indochine, il n'avait pas pu planter le drapeau français en Indochine. Et alors, il voulait le planter en Algérie. C'est incroyable, hein. Alors, quand on est allé au Poitou dans le tronc de la bombe, il y a un hélicoptère qui est passé au-dessus de nous, avec un haut-parleur, nous disant qu'on était dans une zone contaminée, de sortir de là. Après ça, on est allé à la décontamination et moi j'y suis resté 24 heures dans la décontamination parce qu'il me trouvait de la radioactivité dans les cheveux. Il nettoyait à l'eau le véhicule. Nous, il y avait des douches, on passait sur les douches. Il y avait un radé qui tenait le compteur GGR, chaque fois qu'on passait, et ça clignotait. Alors tant que ça clignotait, il fallait repasser sur les douches. Moi, j'y suis passé pendant 24 heures comme ça, toutes les heures, je passais à la douche. Alors, à force, ils ont le climat, ils m'ont dit que tu peux repartir. Et je suis reparti au cantonnement et je racontais ça à mes copains. Et après, c'est passé comme ça. J'étais libéré, sans passer de radio, sans aller à l'hôpital, rien.
Accident de tir n'a été plus irradié que moi.
Pierre Mesmer, en 2004.
À la responsabilité d'une équipe de pélos. Les pélos sont ces Arabes qui travaillent pour des hommes bleus. Ils se disaient à leur disposition, protégés par eux, et c'était pratiquement des esclaves. J'ai toujours été en très bon terme avec ces indigènes, et ça a fortement déplu à Alstom, d'une part, et puis à l'armée, puisque c'est le commissariat à l'énergie atomique qui était sur place. Et il ne voulait absolument pas qu'il y ait de contacts amicaux, cordiaux avec les Arabes, quoi. D'une part, pour des raisons de sécurité, et d'autre part, parce que il y avait la barrière. Nous, on n'avait pas à parler à ces gens-là, quoi. C'était des esclaves, ils étaient là pour travailler pour se taire, quoi. Ils étaient sur place depuis un bon moment, depuis le début des expériences atomiques. C'était pratiquement les mêmes qui étaient ici, qui se connaissaient depuis longtemps et qui étaient dans un campement qui était à 3 km, je pense. J'ai été invité une fois dans leur campement et je crois que j'étais le seul Français à avoir été invité dans ce campement et puis à voir leurs femmes et leurs enfants, quoi. Des gars qui étaient très très sincères, très amicaux, très, très attirants, et je les respectais. Jamais l'un de nous, de notre entreprise ou d'une autre, n'aurait eu l'occasion d'aller boire le thé avec eux. Parce que boire le thé avec eux, c'était un honneur. Un honneur, ils n'invitaient pas n'importe qui, ils vivaient en groupe, ils parlaient en groupe, c'est tout. Ça m'a venu aussi un avertissement, une réprimande, parce que c'était absolument interdit. On n'avait pas à parler à ces gens-là en dehors de ce qui concerne le travail, voilà, et encore moins à sortir avec eux comme ça, c'est tout. Puis souvent, on traitait de dire, bon, tu vas avec les bougnoules, quoi, tu vas avec les bicots ou les ratons, quoi. J'étais choqué, je dis, pourquoi vous parlez comme ça?
À Vigan, il y a la ville de Regan. Il devait être à une trentaine, 30-40 km. On sait maintenant qu'ils n'avaient pas été prévenus. Ça s'est passé à la prière du matin. À la prière du matin, c'est les femmes qui veulent faire la prière. Ils vont à la prière et ils ont regardé le nuage. Oui, il y en a beaucoup qui étaient aveugles. Les femmes qui ont fait des fausses couches, des bosses infirmes.
Biologique des faibles niveaux de radioactivité est encore largement inconnue.
Un membre du comité politique à l'ONU sur la suspension des essais nucléaires en 1959.
Aucune certitude n'a été obtenue sur l'existence ou la non-existence d'un seuil d'exposition aux radiations en ce qui concerne le cancer et la leucémie.
C'est-à-dire que tous les scientifiques étaient formés d'une manière physique, c'est-à-dire sur des quantités, des seuils, des trucs. Tout fonctionnait comme ça. Et la radiobiologie a montré que la radioactivité sur les cellules, alors là, ce n'est plus des histoires de seuils. Parce que 20 générations après sur les souris, tac, ça ne plaît plus. Donc c'est pas un seuil. Parce que l'autre souris qui a pris la même chose, elle est morte déjà. Ou elle n'a rien. Évidemment, pour les militaires, c'est beaucoup plus intéressant. C'est d'ailleurs la manière de penser militaire, hiérarchique. On a un seuil, en dessous, on n'a rien, au-dessus, voilà. Et ça ne marche pas comme ça.
j'avais la sabre à 8 heures du soir avec mes 4 gosses, la petite dans le bras, l'autre de 3 ans que je tenais par la main, et les deux autres qui marchaient devant moi. Elles ne se rappelaient plus de leur père. Et elles attendaient que je leur dise « Tiens, on dirait papa ». Je l'ai vu de loin au fur et à mesure qu'il s'approchait de moi. Mais une trouille terrible, vous avez déjà vu ça, vous, avoir peur de son mari. Et je me suis vite ressaisie pour pas faire peur à mes enfants. Et je dis aux deux plus grandes qui m'interrogeaient le regard, je dis, oh, on dirait papa. Elle faisait la course pour se jeter dans ses bras. Là, il me rejoint, il prend la petite, et moi, j'ai cru que c'était son fantôme qui arrivait. Je reçois un courrier de mon mari me disant, mais tu sais, maintenant je suis en de bonnes mains, je suis quasiment sauvée. Il avait une confiance, ou alors il faisait semblant. Je demande, c'est énorme, Clamart, c'est une ville, et l'hôpital Percy, je ne vous dis pas. Alors je demande mon chemin en rentrant. Il y a un gars, il m'accompagne, mais j'ai cru que c'était simplement pour me montrer le pavillon où était mon mari. La première chose que j'ai fait, c'est de tâter la vitre. Je dis, c'est pas possible, il n'y a pas d'entrée là-dedans. Par où on rentre? Et il me fait signe. Il y avait un interphone sur une tablette, comme ça. Mon mari devait le savoir, lui était de l'autre côté, face à moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu es le seul. Il va et puis me fait signe de la tête de regarder sur sa droite. Ben, il y avait 17 cabines, comme la sienne, avec 17 bonhommes, comme mon mari, tous les uns à côté des autres. Et alors, le garde du corps que j'avais me dit, pire que la prison. Madame, c'est terminé, 20 minutes. Alors, je repartais comme j'étais venue, ni le toucher, ni lui faire une bise, ni rien, 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 rien. C'est grave ce qu'il a. Il m'a dit oui. J'ai dit, il risque de mourir. Alors, oui. Je me dis, dans combien de temps? Alors, il va et puis il me dit 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a eu? Madame, vous savez très bien qu'il était sur un site nucléaire. Oui. Et il me lit le rapport d'enquête. Le sergent-chef, l'écuyer, là, il était passé chef. Le sergent-chef Léculé, qui était chargé des canalisations et adductions d'eau, a été irradié progressivement et par inhalation. Il aurait été en contact avec des boues radioactives. Moi, tout ça, c'était des mots nouveaux pour moi. Et si je les ai si bien retenus, ils résonnent encore dans ma tête. À Reagan, il a perdu la santé. Mais à Sarbou, il a perdu la dignité. Ça, c'est certain. Ça lui a fait un mal terrible. On a stoppé sa solde, Il faut savoir quand même que les avantages familiaux étaient rattachés à la sol. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, en attendant que ma mutation arrive, quand j'allais réclamer, on me disait « Mais ne vous inquiétez pas, madame, vous aurez le rappel. » Oui, mais quand il faisait froid, quand il fallait faire manger mes enfants, j'allais leur dire d'attendre le rappel. Je suis restée 6 mois sans un centime qui rentre à la maison. Le chauffage, je le coupais dans la journée parce que j'ai dit « Mes gosses, ils sont à l'école, ils sont chauffés. Hein ?» J'ai travaillé par-ci, par-là. J'ai fait du repassage chez des femmes d'officiers. Les sœurs du pensionnat m'ont prise comme institutrice au co-préparatoire. Tout ça. Et le peu que j'avais, je le gardais pour l'entretien de mes enfants et tout. Bien évidemment, je ne payais pas mon loyer. J'ai même été menacée d'expulsion par l'armée propriétaire du logement. Il n'y avait pas la trêve hivernale comme il y a en ce moment. Et je leur disais, voilà ce qu'on me répond quand je réclame. Je vous dis pareil, je ne serai pas arrivée chez moi que les arriérés de loyer seront payés. Bon, il y en a toujours parmi eux quand même qui sont sensibles et tout. On ne m'a pas expulsée, jamais, jamais. C'est ça ce que je leur reproche. Ni une assistante sociale qui venait voir dans quelle détresse vivait cette famille.
Doit être capable aussi d'exprimer des regrets.
Pierre Messmer, en 2004.
Oh, pas du tout. Nous sommes fiers d'avoir réalisé un armement nucléaire.
Dossier médical de Sarrebourg de mon mari. On dirait un SDF. Voilà. Même pas son groupe sanguin, même pas son adresse, même pas sa profession. Où est passé le dossier? Je sous-signe Pierre Sapeux, docteur en médecine, certifie qu'effectivement, monsieur l'éculé Bernard est décédé le 4 janvier 76 d'une aplasie médulaire ayant évolué pendant plusieurs années et qui avait été traitée initialement à Paris, dans les hôpitaux militaires. Il semble que cette aplasie soit consécutive à une irradiation accidentelle. 22 ans, le même médecin, il ne doit pas se rappeler qu'il m'avait fait ça. Je sous-signais à la demande de Madame Christine Léculé que Monsieur Bernard Léculé est bien décédé à l'hôpital de Sarrebourg le 4 janvier 1976 à 0h15 des suites d'une affection médicale chronique. Lieutenant-colonel X du 34e régiment du génie souhaite vous rencontrer, madame. Et je pars avec un souffle d'espoir en me disant, il n'y a que lui quoi, qui peut m'aider. Ah, ben j'ai pas le temps. Alors, madame, vous êtes allée à Bercy? Oui, colonel. Alors, vous savez. Oui, colonel. J'espère que vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Oh ben, qui mieux que moi pouvait s'en rendre compte? 26 ans, 4 petits, un mari condamné. Ah oui, mais parlez de leur situation à eux, pas de la mienne. Ils s'en moquaient perdument. Il me dit, il est dans votre intérêt et celui de votre famille de taire ce qui vous a été dit. Les essais doivent se poursuivre en Polynésie et tout comme le Sahara, il nous faudra beaucoup de votre volontaire. Et si on commence à ébruiter ce malheureux incident, on ne trouvera pas beaucoup de bonhommes.
C'était Nada et Julie pour la première radiodiffusion Technicolor. Bravo. Voilà, c'était le nucléaire, la seule industrie qui, même au niveau artisanal, est catastrophique.